m'appelle Régine Antonakios, née Sanchez, donc d'origine espagnole. Mon papa s'appelle Joseph Sanchez. Il est né à San Roque en Espagne, d'une famille implantée depuis plusieurs générations. Cette famille, ils élevaient des chèvres et avaient une laiterie, ils faisaient du fromage de chèvre qu'ils vendaient. En 1922, il y a une sécheresse en Espagne épouvantable. Les bêtes ont attrapé une maladie, tout le troupeau, toutes les bêtes sont mortes. De ce fait, n'ayant plus rien pour nourrir la famille, mon grand-père et ma grand-mère ont décidé de migrer au Maroc. Parce que le Maroc, à l'époque, était sous protectorat français et espagnol. Et on construisait un pays. Et il y avait besoin de main-d'œuvre. Et à Casablanca, ils ont ouvert une petite boulangerie. Mon papa a été à l'école française, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école espagnole, puisque Casablanca était sous le protectorat français. Et c'est quelque chose que j'insiste sur ce fait, parce qu'il a été imprégné de la culture française. Et à l'époque, il a même passé son certificat d'études. Il était toujours très fier de nous dire ça. Son instituteur français lui avait appris à lire, à aller chercher des livres, à coller. Il lisait n'importe quoi et tout. Et à 20 ans, le voilà qui part à la guerre d'Espagne. Comme on dirait à l'époque ici, la fleur au chapeau, il avait 20 ans, on lui avait dit que le franquisme ci et là, il partait. En fait, il faut savoir qu'à la sortie de l'atelier où il travaillait, il y avait des messieurs, d'après ce que j'ai compris, qui recrutaient des volontaires pour aller se battre contre Franco. Et mon père, très enthousiaste, est parti en disant à sa maman, je reviendrai dans 6 mois. Puis il est revenu 4 ans après. Et ma grand-mère, qui n'avait pas eu de nouvelles de son fils pendant toute cette période, a porté le deuil pendant 4 ans. Parce que les gens qui venaient quand même les attendre à la fin des années, faisaient des réunions. Je pense que c'était des réunions politiques, très politisées. Mon père était neuf, il n'avait pas de vision au Maroc, Il était espagnol, ça ne votait pas, c'était pas... Alors, il a été imprégné de toutes ces... Et quand il est arrivé en Espagne, c'est pour se battre pour que tous les Espagnols, dans sa tête, puissent acquérir tout ça. L'enseignement de cet instituteur, liberté, égalité, fraternité, le droit de vote, le droit d'expression, le droit de choisir sa religion, le droit de l'enfant. Ça s'est mal terminé pour les républicains, on le sait. Franco a pris le dessus. Ils se cachaient tous. Ils n'étaient pas hébergés, ils couraient dans les champs. C'était très, très, très dur pour mon père, qui était parti avec une vision idéaliste de ce que pouvait être la fraternité, puisque lui avait été dans une école française. Liberté, égalité, fraternité, c'est quelque chose qu'il avait imprégné. Et il était persuadé qu'en Espagne, ça serait la même chose. L'Espagne, par rapport à la France à l'époque, était quand même... très puritaine, très catholique, très imprégnée de la religion. Et il s'est retrouvé dans les parias, comme on dirait. Et il a pu rentrer au Maroc parce qu'il a pris un train qui l'a amené à Argelès. Et d'Argelès, il a pu, par je ne sais pas quelle filière, retrouver sa famille au Maroc. Mais mon père m'a dit que ça a été terrible pour lui. Il était gardé dans une tente en toile. Et il recevait des coups de pied par des Sénégalais, des gens qui étaient embauchés pour... dans l'armée française, il y avait de tout, dont des Sénégalais. Ils étaient gardés par l'armée et ils recevaient des coups de bottes cloutés. Et quand ils avaient du pain, c'était du pain moisi. Et ça, mon père, il n'a pas compris. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont morts à Argelès. Les gens d'Argelès se sont trouvés débordés et pas aidés par l'État. C'est tout, hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a une telle migration... De gens qui se sauvaient d'Espagne, que Argelès s'est trouvé, ils se sont retrouvés dans un camp de concentration, ils dormaient au bord de la mer. Et il a vu beaucoup de gens souffrir. Et il n'a pas pu rester en France. Parce que le pays des droits de l'homme, il pensait que. Les Français à l'époque, c'était. Argelès, c'était rural, c'était pas. Les gens se battaient aussi pour vivre. Là, il en a pris conscience après, mais quand on a discuté. Mais on ne va pas accueillir toute l'Espagne dans le sud de la France, alors que déjà là, il y a du chômage. Et ils ont été parqués parce qu'ils ne savaient pas qu'en faire. Mon père n'a pas revu l'Espagne pendant 20 ans. Et à chaque fois que ma grand-mère retournait en Espagne pour aller voir de la famille, on lui demandait « Où est votre fils ?» parce qu'il était fiché. Et je pense que c'est à 18 ans, j'ai dit à mon père, ou non, même à 20 ans, quand je suis partie en France, j'ai dit « Papa, tu viens avec moi, tu vas traverser l'Espagne, tu reviendras en avion. Oh, t'inquiète pas, je suis française, tati, tata. » Moi, j'étais forte de mon... Et lorsqu'on a passé la douane, la police, ils ont vu mon passeport, ils ont vu le passeport de mon papa qui est espagnol. Bon, ils savaient qu'ils l'ont regardé. Ils ont posé des questions. J'ai dit, bah, écoutez, il retourne voir son pays, il a le droit, mais j'étais assez ferme. Et puis, à partir de ce moment-là, mon papa a pu revoir l'Espagne. Mais c'était plus l'Espagne qu'il avait connue. C'était... En fait, c'est quand même une guerre civile. C'était des Espagnols contre des Espagnols. Et pour lui, ce qu'il a le plus... Alors, avec ma maman, ça discutait, mais c'était... Il était quand même assez serein quand il s'expliquait et que ma mère disait bah, « c'est pas tous les prêtres ne sont pas comme ça ». Par exemple, quand ils couraient dans la rue, qu'ils étaient suivis par les franquistes et qu'ils voulaient se réfugier dans les églises, les prêtres leur tiraient dessus pour faire « bon, voilà ». Mais tout le monde n'était pas comme ça, ma mère l'expliquait. Il a eu beaucoup, beaucoup d'amertume de cette situation. Alors, des trois filles, je suis la plus subversive, je suis athée. Alors que mes sœurs sont très, très pratiquantes. Mais moi, mon père m'a prise en main, il m'a formatée. Voilà. Alors, eh ben, au Maroc, quand il est revenu, il a épousé ma maman. C'est très marrant parce que mon papa s'appelle Joseph et ma maman Joséphine. Alors vous riez, mais ça a été quand même un drame parce que lorsque mon papa a courtisé ma maman, il lui a dit « Je m'appelle Joseph et vous, mademoiselle ?» Elle a éclaté de rire, elle lui a dit « Joséphine ». Ce monsieur s'est fâché, persuadé qu'elle se moquait de lui et pendant 6 mois, ils ne se sont pas vus. Et puis c'est un copain qui a dit « Mais enfin, elle s'appelle bien Joséphine ». Bon, ils se sont mariés. Dans la famille de ma mère, qui était très catholique et très pratiquante, ça a été quand même un exploit pour ma mère de dire ben « non, je veux l'épouser ». Parce que mon père était un républicain espagnol et qu'il était anticlérical, qu'il était... Voilà. J'avais une maman qui était très pratiquante et j'avais un papa qui était très subversif, disons. Liberté, égalité, fraternité, voilà. Et on a été élevés dans ce milieu. Ce qui ressort de ça... C'est que 3 filles sont nées, dont je suis l'aînée. Nous avons toutes été à l'école française, pas l'école espagnole, parce que ça existait, à l'école française, pour que nous imprégnions des pays du droit de l'homme, de la culture. Et ma mère complétait ça avec sa religion. Alors, ce qui fait que ce couple qui était aux antipodes ont pu nous apporter, nous inculquer les valeurs de l'humanisme, c'est-à-dire le partage, la dignité et le respect des autres. On a béni là-dedans. J'étais baptisée, j'ai fait ma communion. Voilà. Mon père n'est jamais venu à ces manifestations. Il ne participait pas au repas de famille. Mais par contre, que ma maman nous dise il faut partager, il adhérait. C'est un couple qui s'est beaucoup aimé et je pense qu'ils ont été complémentaires dans notre vie. Alors, je vais vous parler de ma maman parce que c'est important. Alors, Joséphine est née à Tanger. Elle est née à Tanger parce que depuis plusieurs générations auparavant, les parents avaient déjà migré de Malaga. Malaga, c'est sur la côte méditerranéenne. Il n'y avait pas de travail. Je pense qu'ils ont dû le faire à la même période. Il y a eu des périodes de famine en Espagne à l'époque, de sécheresse. Et les gens, comme le Maroc était en construction, les gens se migraient au Maroc. Alors, elle s'est retrouvée, elle, à Tanger, où l'activité de mes arrière-grands-parents était de pratiquer l'agriculture et de faire du maraîchage. Alors, le père de ma maman est parti en Argentine faire son service militaire, parce qu'il était à Tanger, c'était au protectorat espagnol. Il était tenu de faire son service militaire. Il pouvait partir à l'étranger. Et comme il avait l'air un peu aussi... marginal, disons, pour l'époque, il a décidé de partir en Argentine. En Argentine, il a rencontré une Antonia de 17 ans. il a ramené à Tanger. Cette jeune fille, elle a fait un choix. Sa maman lui a dit « Ou tu restes avec nous, ou tu l'épouses et tu pars avec lui. Mais si tu l'épouses, tu pars, tu ne le reverras plus. » Et si c'est produit, elle n'a plus jamais revu ni ses frères, ni ses parents, ni sa famille. Alors, de ce couple est née ma maman, où il y avait quand même 5 enfants. Et ma maman était engagée à 14 ans comme petite main chez un chapelier. On a baigné dans la culture, dans tout ce qui était... Alors, on vivait en communauté quand même, hein, faut le dire. Mes tantes étaient espagnoles, les autres tantes étaient espagnoles. Hein, et mon père était le seul qui avait pris la mesure de ce que la culture française pourrait apporter aux personnes venant des pays étrangers. C'est-à-dire que l'Espagne, il y avait bien protectorat, c'est à Tanger. Mais à Casablanca, il n'y avait rien. Une petite école espagnole, mais qui était payante au consulat. Alors que l'école française, c'était la gratuité, l'école pour tous. C'était un mélange de cultures. Hein, et ce qui fait qu'on a baigné là-dedans. Dans ma vie personnelle, j'ai travaillé à Casablanca dans un grand groupe français. Je faisais de la comptabilité. Et lorsqu'à 21 ans, la boîte a fermé et qu'on m'a demandé si je voulais rentrer en France, j'ai pris deux décisions. J'étais majeure, 21 ans. J'étais allée au consulat de France. J'ai tout de suite demandé la nationalité française, parce que je me sentais beaucoup plus française qu'espagnole. Et la deuxième démarche, c'est j'acceptais la mutation à Paris. Mes parents étaient d'accord. Ils avaient des amis à Paris. J'allais découvrir la France, j'allais découvrir Paris, j'allais découvrir la Comédie française, j'allais découvrir l'opéra. Et tout, je faisais des queues pour avoir des billets à tarif réduit. Pendant 2 ans, j'ai eu le mot gavée de culture. J'étais très très bien accueillie dans la boîte où je travaillais. Hein. J'étais la petite qui venait d'un autre pays. C'était de la gentillesse, c'était plein de choses. Après, quand dans ma vie, ils m'ont demandé, mais vous êtes, quelle est votre nationalité? Je dis toujours, je suis française d'origine espagnole. Je me sens beaucoup plus française qu'espagnole, hein. Je le dis très sincèrement, parce que mon père nous a coupé de cette culture. Après, on est retourné en Espagne, on a visité les musées, mais... Je suis toujours contente de partir pour aller voir quelque chose, mais je suis contente de revenir ici. Le Maroc, dans tout ça, c'est un pays qui m'a aussi beaucoup apporté dans l'échange. J'habitais dans un immeuble, voilà, un exemple type. Alors, au rez-de-chaussée, j'avais M. Boinon, qui était, à l'époque c'était protectorat hein, quand même, qui était police municipale, allez, disons. En face, il y avait une madame Zabulon, qui était juive. Au premier étage, il y avait nous, les Espagnols. À côté, madame Ménager, française, le mari était commissaire de police. À côté, une Alsacienne. Au deuxième, une Italienne. Et pour conclure, une Marocaine. Et on a vécu en communauté pendant presque 20 ans. On échangeait, on discutait, les cultures se mélangeaient, sans qu'il y ait eu de tension, sans qu'il y ait eu de... en se respectant les uns les autres. Parce que le mot était passé. Lorsque, moi, j'avais 14 ans, la dame italienne attendait son bébé. Puis d'un seul coup, elle a perdu les os, vous voyez, la naissance du bébé. Ah ben moi, j'ai gardé les petits. Et ma maman, l'autre voisine, ont aidé cette dame à avoir le bébé. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'il fallait laver les bleus de travail de l'homme, qui était mécanicien aussi. Il n'y avait pas de machine à laver à l'époque. Ben les femmes... Elles ont pris le linge, elles l'ont lavé. J'avais une solidarité. Et tout ça, ça m'a imprégné dans ma vie de tous les jours. En plus, c'est un beau pays, j'y retourne très souvent. Quand j'y retourne, une anecdote, comme dirait mon mari, elle va au marché. Alors, tout le monde, elle va au marché, pourquoi faire? Ben, au marché, c'est le marché de mon enfance. Et je vais voir ben, les marchands qui ont mon âge. « Bonjour Ali, comment va ton père? Est-ce qu'il est ta sœur et les enfants et les... Bonjour Fatima, ben, hey, tu t'es voilée maintenant, c'est nouveau ça, tu l'étais pas? » Bon, je peux dire. Hein. « Oui, mais Régine, bon, maintenant, ça se... on discute, il y a de la communication, il y a... » Voilà. Je me rappelle d'une anecdote, j'allais à une école française. La fille du gardien de l'école s'appelait Aïcha, je l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup parce qu'elle avait une belle tresse et que j'avais des cheveux courts. Et elle avait des cheveux épais, bon, ben voilà, des trucs de gamin. Et Aïcha était la seule petite fille marocaine dans ma classe. L'école n'était pas payante, mais je ne sais pas pourquoi à l'époque. Je ne veux pas dire de bêtises. Hein. Il n'y avait pas d'autres enfants, peut-être parce qu'il y avait une école pas coranique, musulmane à côté, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que je lui aimais, cette Aïcha. Et je suis restée en termes avec elle. En bon terme, au rez-de-chaussée, il y avait une dame, la dame juive, Madame Zabulon, qui avait une employée de maison. Qui, cette employée de maison, avait une petite fille, Malika. Et j'étais amie avec elle. Et puis Malika est maintenant pédiatre à Casablanca. Eh bien, je la vois très souvent.
Est-ce que vous pensez que vos parents se sentaient marocains quand même ? Que le Maroc était leur pays ?
Alors, très bonne question. Ma mère se sentait marocaine et mon père, beaucoup plus que ma mère, parce que tous ses copains étaient marocains, tous ses... Voilà. Il travaillait dans un milieu français, il avait des copains français, mais dans le quartier, c'était tous des Marocains. On habitait dans un quartier... Bon, disons comme Saint-Égret, mais il y avait quand même des familles marocaines aisées qui habitaient dans le coin. C'était tous des Marocains. Par contre, ma mère, dès qu'elle est rentrée en France et qu'elle a vu l'accueil que pouvait faire la France, les voisins, elle a dit, mais moi, je veux mourir française, Régine. Ça a été son truc, je veux mourir française. Parce que moi, j'en avais assez de faire Grenoble, Kazakh, quand ils étaient malades, quand je prenais l'avion. Un jour, je leur ai dit, écoutez, rentrez en France, vous vivez en France, vous serez couverts. Et ma maman n'avait qu'une idée, c'est très marrant, ça, elle est morte d'ailleurs, elle n'a pas eu le temps de... Elle me disait, écoute Régine, tu m'emmènes, moi je veux prendre la nationalité française. J'aimais bien, je veux prendre. Je lui ai dit, mais pourquoi faire, maman ? Ben écoute, je suis bien ici, on m'a tout donné, je ne vois pas pourquoi, l'Espagne ne m'a rien donné, c'est un discours... Et mon papa, écoutez, il allait jouer au boule avec les voisins, tout ça, mais dès que mon papa est rentré en France, c'était plus le même homme. D'abord parce qu'il est âgé. Et puis on l'a déraciné d'un quartier. On l'a déraciné de son épicier. On l'a déraciné du voisin. On l'a déraciné de la mer. On l'a déraciné du soleil. Et ça, ça a été un peu dur. Ça a été dur pour lui. Alors, il était content, il regardait la télé, mais il voulait pas. On le sortait difficilement, alors que c'est un homme qui, au Maroc, courait dans tous les sens. Hein. Il est arrivé, on a eu l'impression qu'il se posait. Il nous racontait sa vie, il racontait ce qui, à mon mari surtout, à Christophe, tout ce qu'il avait vécu en Espagne, ses moments durs. Il était pudique avec nous. Alors moi, j'ai tué tout ça pour mon mari. Moi, il m'en avait parlé, mais pas aussi durement. Il a vécu des choses. Il me disait toujours, « Ah ben moi, quand j'ai fait la guerre d'Espagne, j'étais riche. »« Ah bon ? » ?»« Et alors, pourquoi ?» J'avais sur le dos un manteau de fourrure de femme. En fait, ils avaient eu tellement froid qu'ils avaient trouvé des fringues, je ne sais pas où, dans une maison. Hop, ils avaient pris ce qu'ils avaient. Et pendant 4 ans, il a tourné. Il était poursuivi.